This season, Instacart has your back to school. As in, they've got your back to school lunch favorites like snack packs and fresh fruit. And they've got your back to school supplies like backpacks, binders, and pencils. And they've got your back when your kid casually tells you they have a huge school project due tomorrow. Let's face it, we were all that kid. So first, call your parents to say I'm sorry, and then download the Instacart app to get delivery in as fast as 30 minutes all school year long. Get a $0 delivery fee with your first three orders while supplies last. Minimum $10 an order. Additional terms apply.
Copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit
« T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne !»
Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde.
Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur.
Elle nous connaît dans les coins, la frangine.
Salut, c'est Clémence. Bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Chaque semaine, on se retrouve pour vous parler de la sortie du moment. Ici, on analyse, on décortique, on argumente et pour ça, on est bien obligé de spoiler. Alors si vous n'aimez pas ça, allez d'abord voir le film et revenez nous écouter quand ce sera fait. À mes côtés cette semaine, une équipe merveilleuse de chroniqueurs de talent. Ils ont souvent la dent dure, mais toujours de bons arguments. Promis, j'ai pris aucune drogue pour dire ça. J'ai le plaisir de retrouver Rafik.
Salut.
Et Stéphane.
Salut Clémence.
À la technique, lui, vous l'entendez que rarement, mais vu les analyses qu'il livre hors micro, je me dis que ça serait pas mal qu'il passe de l'autre côté de temps en temps. Salut Alain.
Ne les tente pas.
Et on dit merci à Latex pour le mixage, le montage et l'habillage sonore.
Attends, on s'est pas foutu de sa gueule la dernière fois, mais en fait, il a envoyé un message, hein. Pour donner son avis sur Top Gun en plus, quoi. Donc bon, hein, je veux dire, voilà, et en loose day en plus, parce qu'il l'a dit à personne, tu vois, et en fait, il croit qu'on l'aurait pas reconnu, quoi. Oui, bonjour, c'est un homme, merci.
T'as même pas mis un filtre sur ta voix.
Non.
Un de ces quatre, tu viendras chroniquer. Et puis on ne le dit jamais assez, nos émissions existent avant tout grâce à toutes les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent et nous soutiennent. Pour qu'on reste indépendant et qu'on arrive à en vivre, on a besoin de vous. Donc n'attendez plus, pour nous soutenir, rendez-vous sur patreon.com ou tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Et puis attention, sortez vos agendas. Si vous êtes à Paris ou en région parisienne, le samedi 2 juillet à 16h30, bien, bloquez la date. Stéphane, qu'est-ce qui se passe le 2 juillet?
Alors il y a une séance Capture Mag, évidemment, voilà, ça en premier lieu, mais un peu spécial cette fois-là, parce qu'en fait, on va enregistrer la première partie de notre prochain épisode de Capture Mag, le podcast, qui est consacré à Sam Raimi. Et ça sera donc en public, c'est ouvert au public. Voilà, pour ceux qui viennent voir ensuite derrière Evil Dead 2 en 4K.
Donc au programme, un enregistrement d'à peu près combien?
3 heures à peu près, 3h15 peut-être, si j'arrive à les contenir, mais voilà, normalement c'est entre 3h et 3h15, quoi. Et puis ensuite, on fait une petite pause, et ensuite on présente vite fait, en fait, en gros, enfin on va vite fait parler un peu de ce qu'on fait, nous, parce que c'est pour les 10 ans de Capture Mag, et ensuite on montre Evil Dead 2. Normalement il n'y aura pas besoin de présentation, puisqu'on en a parlé assez longuement, en fait, dans le podcast, quoi.
Oui, il y aura eu à peu près 3 heures de présentation avant. Donc, voilà, pensez à bien noter la date et à prendre vos billets sur le site du Club de l'Étoile, clubdelétoile.fr, samedi 2 juillet à 16h30. 3 heures d'émission Capture Mag en live et ensuite la diffusion d'Evil Dead 2. Cette semaine, direction la prison. Oui, mais oubliez les barreaux, les matons et la promenade dans une minuscule cour où on aperçoit juste un bout de ciel bleu. Ici, les détenus peuvent aller et venir comme ils le souhaitent, reçoivent des repas appétissants et font même des sorties en pleine nature. Bienvenue à Spiderhead. Évidemment, on se demande où est l'arnaque. Eh bien, à Spiderhead, les détenus sont aussi des cobayes. Steve Abnesti, scientifique en chef de l'établissement, mène des expériences sur eux. C'est le deal, plus de confort, une peine réduite, à condition de tester des médicaments altérant les émotions. Derrière ce récit dystopique, un auteur, George Saunders. Il publie cette nouvelle en 2010 dans le New Yorker, et 9 ans plus tard, fin 2019, une adaptation ciné est annoncée. aux commandes Joseph Kosinski. Oui, oui, le même Joseph Kosinski dont on parlait déjà le mois dernier avec Top Gun Maverick. Si vous avez raté l'épisode, je vous refais le topo. Joseph Kosinski s'est fait connaître en 2010 avec Tron l'Héritage. Il poursuit avec Oblivion en 2013, Line of Fire en 2017 et donc le Legacy Quel de Top Gun. Sauf que contrairement à Top Gun, pas de sortie en salle en grande pompe. Spider-Head sort sur Netflix ce vendredi 17 juin. Alors, la fine équipe, c'est quoi votre météo ?
Vas-y, bah, je t'en prie.
Moi, ça va être compliqué pour moi parce qu'on m'a injecté du D14, donc j'avais l'impression qu'il y avait eu un temps absolument magnifique, mais en réalité, j'étais allongé sur la moquette de la cafétéria à regarder le plafond gris.
Attention, je vais te donner du verbalex hein, pour que tu nous dises plus en détail ce que tu penses.
Moi, je veux dire pluie noire, voilà.
Chouï même moi.
Ouais, c'est ça, non, mais pluie noire parce que bon, enfin, je sais même pas s'il y a une vraie connexion, mais on va parler du film et on développera quoi.
Très bien, vous allez nous expliquer tout ça. Donc, pas de verbalex, hein, je crois que je vais pas avoir besoin de ça pour vous faire parler. Qui commence ? Allez, Rafik ?
Oui, bah, donc, je crois que la première chose à noter par rapport à ce film, c'est son arrivée justement sur cette plateforme d'une façon aussi peu événementielle. On rappelle quand même que donc, Kosinski est, je crois, à l'affiche d'un film qui, je crois, marche plutôt bien en ce moment, qui s'appelle Top Gun Maverick, et qui est, de ce que j'ai compris, le plus gros succès de l'année, c'est sûr, et peut-être des cinq dernières années.
Et potentiellement un film extrêmement populaire, surtout en fait auprès des gens, donc qui pourrait amener des gens à éventuellement regarder Spider-Head.
Exactement.
Puisque c'est le même réalisateur, quoi.
Avec un comédien qui, à défaut d'être incroyablement brillant et couvert de palmes académiques, est quand même très connu par sa participation à la franchise Marvel notamment.
Oui, on l'a pas cité, mais c'est Chris Hemsworth qui joue le docteur Steve Amnesty.
Qui joue le docteur du film et qui est accessoirement producteur aussi. Et donc de se dire on va dire le réalisateur star du moment au niveau box-office et une des grosses stars du moment ne suffisent pas à convaincre Netflix de communiquer sur un film qui, à ce que j'ai compris, coûte quand même
100 millions de dollars.
Plutôt cher, voilà. Donc ça, c'est vraiment la chose la plus étonnante, mais c'est pas la première fois qu'ils font le coup, en fait, hein, de rappeler qu'ils ne produisent pas des films, mais du contenu. Et que l'impact culturel, il est proche du néant. Donc maintenant, si les gens écoutent ce podcast, évidemment, c'est pour savoir est-ce que ça vaut le coup de s'arrêter, de checker sur leur abonnement une fois que le film sera mis à disposition. Je vais tenter de répondre non, ou alors contentez-vous éventuellement du générique d'ouverture. Je dis générique d'ouverture parce que quand le film commence, on a la sensation d'être pris entre de bonnes mains. Comme on l'a déjà dit dans le podcast consacré à Top Gun, Kosinski, pardon, c'est quelqu'un qui sait cadrer. Et donc il nous rappelle qu'une image de cinéma, ça respire, et là en l'occurrence c'est des paysages d'îles, enfin d'un grand océan avec des îles et un hydravion qui s'approche de cette prison. On est aussi noche, on regarde ça, on fait « Ah, ça c'est bien, c'est un film qui commence, j'ai envie de pénétrer là-dedans ». C'est bon, hein, une fois le générique fini, vous pouvez rentrer, checker les épisodes de Love, Death and Robots qui vous attendent juste à côté, parce qu'on rentre à l'intérieur de cette prison qui est une prison aux murs gris, sale et triste, pour ne pratiquement plus en sortir. Et même si Kosinski, en bon fan d'architecture, prend un vrai plaisir à cadrer ces murs aux compositions déroutantes, tout en angle et en pointe. On n'a rien d'autre que ça, quoi, que de l'architecture à l'image. L'histoire est censée être une histoire qui se concentre sur les personnages, et c'est de très très loin le point faible du film, puisque il n'y a aucun choix qui a été fait sur la tonalité, sur ce qu'on raconte, sur ce qu'on privilégie de raconter. Voilà, t'as vaguement résumé l'intrigue, donc voilà, on le rappelle, hein, c'est une espèce de docteur Mengele de la Silicon Valley qui expérimente sur ses prisonniers différentes substances qui altèrent leurs émotions. Mais qui en réalité cache son jeu parce qu'il a un but qui ne sera révélé que que dans la troisième partie du film, quoi. Et qu'il est, en fait, il est encore plus méchant qu'on ne l'imaginait. Voilà.
Quel plot twist!
Oui, c'est ça.
Il n'y en a pas beaucoup dans le film.
Et, et le film hésite entre des séquences, on va dire, entre l'ironie, notamment au niveau du pré-générique, où on a donc un sujet qui est en train de hurler de rire alors qu'on lui annonce des catastrophes, enfin on lui parle
en fait,
de choses tristes,
des faits divers en fait, mais très graves en fait, des faits de guerre, on lui parle,
il parle de génocide,
de génocide au Rwanda, ce genre de choses, et lui il rigole en fait parce que on lui a injecté le
voilà, donc là en tant que spectateur tu te mets en mode ironique, tu vois, ça va être une forme de critique sociale acerbe, etc., bon, je sais pas quoi. Ensuite on a du sentimentalisme avec le personnage principal et son trauma qui le poursuit. De la comédie presque absurde, puisque bon, il leur injecte des produits qui font qu'ils sont très attirés les uns vers les autres et ils se mettent à baiser comme des fous, et c'est clairement filmé comme de la comédie presque voilà. Cartoonesque.
Alors ça on va en parler, mais je suis pas tout à fait d'accord avec toi, mais vas-y. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, ce que j'allais dire, c'est que en gros, tu parles de beau cadrage, de trucs comme ça, ce qui est bon, pas faux, hein, dans le cas de Joseph Kosinski, c'est quelqu'un qui en tout cas c'est mettre en valeur le package en fait qu'il est censé présenter aux gens, et là je le dirais, c'est pas pour faire le troll, hein, mais c'est exactement la même logique pour moi avec Tron, oui, je peux le dire, sur Tron Héritage, mais aussi Top Gun Maverick en fait. C'est à dire que pour moi c'est de la belle enveloppe. C'est à dire qu'en fait, si on devait comparer le langage du cinéma au langage écrit, quoi, je dirais que Joseph Kosinski, il a une très belle écriture, mais par contre en fait il écrit très très mal, si tu veux. Et en fait, en gros, en tout cas, si
son
tu veux,
style
son style son... en fait d'écriture ne fonctionne pas, c'est à dire parce que là en l'occurrence, moi je trouve justement que le problème en fait de choisir un ton n'est pas de choisir un ton, c'est que chaque moment, c'est-à-dire à part effectivement la scène d'ouverture, parce que c'est la scène d'ouverture et que toi normalement en tant que spectateur, bah, quand tu rentres dans un film, si tu veux, en général t'es plutôt ouvert à ce qu'on va te proposer, t'es plutôt ouvert à ce qu'on va te montrer, donc effectivement tu dis ah bon, ça part dans cette direction, je comprends ce que le scénario essaie de me dire, mais en l'occurrence en termes de mise en scène pure, moi je trouve justement que ça n'est pas filmé comme une comédie, en fait les moments comiques sont pas filmés comme une comédie, ils sont filmés à la truelle, quoi, c'est-à-dire vraiment en fait voilà, il peut pas s'empêcher de faire ses beaux plans léchés de toute façon, donc quoi qu'il arrive en fait il ne peut pas faire, il y a pas de vie là-dedans, la comédie
c'est aseptisé, tu trouves?
C'est aseptisé, mais ça c'est encore
je pense que je parlais plutôt au niveau du montage en fait, pour ce qui est de l'effet comique absurde, parce qu'il y a des ruptures de montage qui font que voilà, t'es dans une scène très calme et le plan d'après t'as un mec en train d'embrocher une nana avec, en poussant des cris ahurissants qui résonne dans toute la pièce très brutalement, tu vois, histoire de te faire comprendre que il est encore sur une nouvelle expérience, on lui a encore injecté le même truc et ils refont la même chose que dans la séquence précédente, et ça c'est un effet comique. Et d'ailleurs bon, pour le coup il a comment dire, Stephen Merion, qui est un monteur oscarisé, qui est aussi, entre autres, connu pour avoir bossé sur la série des Ocean's Eleven, donc lui il est effectivement adepte de ces effets de montage, tu vois, de j'allais dire de rupture de ton par le montage. Mais le fait est que
il est habitué aussi à monter du vent, quoi.
Aussi, c'est ça que t'es en train de dire, parce que bon, les Ocean's Eleven, du coup, il y a du rythme sur ces séquences-là. C'est juste que la rupture de ton, en tant que spectateur, tu peux tout à fait l'accepter si elle a un sens. Là, elle a pas de sens, la rupture de ton. Elle est là que parce que on savait pas comment le faire. Là, le coup du sexe, ça nous gênait, donc on a préféré le faire en mode comédie. Mais en même temps, on a envie que vous vous attachiez à ce personnage principal, donc on va sortir les violons pour vous parler de son trauma. Donc, en l'occurrence, l'accident de voiture qui l'a mené à être prisonnier.
Avec un money shot, mais complètement hors de propos, en fait, aussi, c'est pareil.
Quand il est éjecté de la bagnole.
Bah oui, parce qu'en fait, si tu veux, tu regardes un truc comme ça et tu te dis, mais en fait, d'un seul coup, le film essaie de justifier son budget, si tu veux. Donc, ils te font un espèce de plan spectaculaire, si tu veux, mais qui te sort complètement de. Enfin, pour moi, quand je vois ça, et il le répète deux fois dans le film, je vois ça, je me dis, ok, on sort complètement, en fait, de ce qu'on est censé raconter à ce moment-là. C'est-à-dire, effectivement, d'avoir une espèce d'empathie, une espèce de choc traumatique, en fait, avec le gars. En fait, t'es juste en train de regarder un beau plan à la Marvel. Tu vois, un beau plan à la un truc en fait impressionnant, alors que bon, voilà, enfin, si tout le film était fait comme ça, pourquoi pas, mais je veux dire, en l'occurrence c'est même pas ça, c'était, enfin bref,
et donc bah, ce que le film est censé te raconter, c'est la nature de l'expérience qui est faite sur ces personnages, et en fait te montrer que finalement, même s'ils ont l'impression qu'au départ, s'ils ont dit oui à ce type de prison, c'était pour échapper à la dureté des prisons normales, mais qu'en réalité, ils sont dans un endroit qui est encore pire. Et à aucun moment, on te fait sentir que c'est pire. On est en train de les mindfucker continuellement, et à aucun moment, le film ne parvient à te faire ressentir l'horreur de la situation qu'ils sont en train de vivre. À quel point ils sont détruits à petit feu. C'est un film qui est aussi là pour porter un discours sur la, comment dire, sur le
libre arbitre.
C'est ça, sur le libre arbitre, sur la capacité à se pardonner soi-même, à rappeler qu'on est tous dans la même galère. On a tous des péchés qui nous suivent toute la vie et des choses dont on n'arrive pas à se détacher. Est-ce que ces actes du passé nous définissent en tant qu'être du moment et tout ça? Mais à aucun moment. Le film choisit. C'est évoqué, mais il n'y a pas de construction qui privilégie un discours. Il n'y a pas de point de vue, en fait. Et c'est quand tu parlais de Top Gun Maverick, moi, si je me suis, comme je l'ai dit dans le podcast, si je me suis pas trop fait chier à Top Gun Maverick, c'est parce qu'il y avait un effort d'écriture. Je me suis pas reposé sur la mise en scène de Kaczynski pour me faire apprécier Top Gun ou pour me donner un point de vue fort sur Top Gun. Le gars, il est scolaire. S'il n'y a pas quelque chose d'écrit, ben, il aura littéralement rien à raconter. Or là, les scénaristes, en l'occurrence, ben, ils jouent, c'est des petits malins, quoi. C'est
Red Freeze et Paul Wernick. Il faut les citer parce que c'est des gens qui sont des scénaristes. Effectivement, ils ont fait Deadpool, ils ont fait Bienvenue à Zombieland. C'est des gens qui ont une approche de petit malin, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, ils déconstruisent pour voilà. Mais même le problème, en fait, c'est que même ce discours de déconstruction qui est pas compliqué, hein, sur un film comme celui-là, hein, qu'il pourrait avoir, en fait, ils ne l'ont pas, enfin, pas eux, mais lui ne l'a pas, en fait. Kaczynski ne l'apprend pas, parce que, en gros, à la limite, en fait, si tu es un petit peu méta, en fait, avec le sujet du film, c'est-à-dire si t'as pas envie de traiter le truc des grandes idées philosophiques, on va dire, si tu veux, si tu as pas envie de traiter les grandes idées philosophiques
la
du
liberté,
film,
tout
voilà,
ça.
Tout ça, etc., etc., tu peux au moins traiter, en tant que cinéaste, le pouvoir que tu aurais sur ton spectateur. Et le pouvoir émotionnel que tu pourras avoir sur ton spectateur, c'est-à-dire en gros, à ce moment-là je vais le faire rire, à ce moment-là je vais le faire pleurer, à ce moment-là je vais tirer, parce que en fait avec mon langage je sais faire ça, normalement c'est dans mon métier, quoi. Et en l'occurrence il se trouve que là en fait ça démontre l'incapacité de Kaczynski à faire ça. Je sais pas, hein, peut-être qu'il s'est dit qu'il essayait de le faire, en tout cas ça marche absolument pas. Il y a pas de discours là-dessus, ce qui est pas grave, hein, en soi, c'est pas important, mais c'est juste, en fait, effectivement, c'est par défaut qu'il y ait pas de discours là-dessus non plus, parce que comme le dit Rafik, il y a une grosse problématique de point de vue. Et d'ailleurs, en fait, j'avais raté de raconter cette anecdote la fois d'avant sur Kaczynski, mais une anecdote qui me fait beaucoup rire, quoi. Enfin, beaucoup rire. Apparemment véridique, c'est le réalisateur Steve Lisberger qui m'a raconté ça, qui est le réalisateur en fait du premier Tron. Et en gros, forcément par la force des choses, ils sont venus le chercher pour Tron l'héritage, sauf que c'est Kaczynski qui a réalisé le film, donc. Mais il servait de patron, on va dire, autour de la licence, et autour de la franchise, et autour de la création de cet univers. Et Kaczynski lui aurait dit « Je suis Stanley Kubrick. Je suis le nouveau Stanley Kubrick. » Ce qui est déjà, en fait, si tu veux, pose le degré de melon du bonhomme, voire de manque de maturité, on va dire, du bonhomme, quoi. Et en fait, quand il a fait le Tron l'héritage et qu'il s'est rendu compte qu'il n'était pas Kubrick, il aurait dit, et j'ai demandé, j'ai demandé à Lisberger, j'ai dit, mais c'est une blague, il vous a pas vraiment dit ça. En fait, il me dit, si, il l'a dit pour de vrai. Je lui ai dit, mais il le croyait vraiment? Il m'a dit, oui, je pense qu'il le croyait vraiment. Il lui a dit, je ne suis pas le nouveau, à l'époque, il lui aurait dit, donc je ne suis pas le nouveau Kubrick, je suis le nouveau Michael Bay. Et ce qui explique pourquoi il fait des films de pompiers et des films de gros navions. Mais le truc, c'est que, dans la logique des choses, on pourrait effectivement connecter ça à Michael Bay, quoi. Mais sauf que, et je suis désolé, en fait, encore une fois, d'appuyer sur le bouton, quoi, de dire vraiment ce truc-là, mais ce sont des cinéastes, en fait. Alors Kubrick, c'est une évidence, tout le monde le sait, mais même Michael Bay, c'est un cinéaste, c'est-à-dire à proprement parler, c'est-à-dire qu'on en pense qu'on veut, on peut ne pas aimer du tout, mais c'est quelqu'un qui a créé son propre style, qui a créé une propre forme, en fait, qui a donné des suites dans l'histoire du cinéma. Littéral, en fait. C'est-à-dire, aujourd'hui, un film comme The Rock, à l'époque où c'est sorti dans les années 90, on peut attester que c'était beaucoup trop cut, beaucoup machin, c'est la norme totale, aujourd'hui. Je veux dire, tu regardes The Rock aujourd'hui, il n'y a aucun problème, en fait, si tu es un spectateur actuel habitué aux choses. Et en fait, en gros, et là, je parle vraiment du montage, hein, c'est-à-dire de la façon de couper les plans, etc., etc., haché et tout. Et le truc, c'est que, voilà, en fait, encore une fois, on en pense ce qu'on veut. On peut détester Michael Bay. J'ai assis à côté de moi sur ce canapé, parce une personne
moi,
qui déteste.
Toujours pas le voir, oui.
Ouais, mais, parce que tu l'as pas, t'as pas essayé. Mais t'as vu des films bien plus mal, bien plus rythmés que ça, en fait, c'est ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que ces gens-là, en fait, c'est des gens qui ont créé leur propre langage dans le langage du cinéma. Kosinski, il a rien créé du tout. Kosinski, à la limite, il serait approprié. Et on va dire que si on devait faire pour le coup une analogie, bah en fait, ce film-là, ça serait son The Island.
C'est ça, oui, tout à fait.
Son de Michael ouais. Bay, quoi. C'est-à-dire le film où il est complètement. Et j'ai beau adorer Michael Bay pour plein de raisons qui sont à la fois, j'estime, des raisons valides et des raisons, comment dire, perverses, de cinéphile pervers, quoi. The Island, c'est pas possible. C'est un film où tu sens que le mec. Essaye de se contenir par rapport à son sujet, essaye de se faire passer pour ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire un grand cinéaste intellectuel, ce qu'il n'est absolument pas. Il lâche la rampe au bout d'un moment. Michael Bay, il fait du Michael Bay, hein. Il peut pas s'empêcher, quoi. Mais voilà, c'est ça la problématique, c'est qu'en fait, on parle d'un sujet qui est beaucoup trop, enfin, de sujets philosophiques qui sont beaucoup trop, comment dire. Enfin, je veux dire, il s'en foutait, Michael Bay, de ça, dans The Island, il l'a lâché au bout d'un moment, et là, c'est une évidence aussi pour Kosinski, c'est-à-dire que quand il fait un film comme Spider-Head, oui, enfin, tous les trucs potentiellement intéressants en fait du sujet passent complètement à la trappe en fait. Ou alors c'est fait comme un truc de bourrin, mais même pas assez. C'est-à-dire c'est ça le problème, c'est-à-dire que quand il convoque Nathan Jones qui est quand même le gros comment dire le gros bébé géant là musclé sur musclé de Mad Max et du maître d'armes contre Jet Li tout ça etc., tu te dis bah ça va être rigolo. Ils vont au moins faire rentrer un gros bourrin dans l'arène. On va faire des scènes avec ça. Il va faire un truc marrant. Et à un moment donné, il y a une vague, tentative
tension.
D'humour, voilà, sur le fait que peut-être, en fait, ils vont leur faire prendre du love, je sais pas quoi, là, du.
Le truc qui fait baiser, ouais.
Ouais, le truc qui fait baiser. D'un seul coup, en fait, ils vont se retrouver.
La drogue qui rend amoureux.
Voilà, qui rend amoureux, voilà. Et Miles Taylor, le personnage, dit non, mais moi, il est hors de question que je fasse l'amour avec lui, quoi. Tu vois, et tu te dis, bon, ben, en fait, est-ce qu'ils vont y aller? Est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont essayer? Non, ils y vont pas. Et en fait, pareil, il y a une baston à la fin, ils le font pas intervenir. Ils te le montrent, hein. Ils le font pas intervenir.
Il suggère que lui n'était pas contre.
Voilà, non, mais
le héros est.
Non, mais même ce que je veux dire, c'est que ça sert à quoi d'aller chercher un gars comme ça, en fait, c'est pour rien faire avec.
Rien du tout, alors que tu te serais attendu. Est-ce que dans la séquence finale qui joue clairement la carte du climax, il y a au moins une baston avec ce personnage-là?
Rien.
My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day.
Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be.
Mais sur l'incapacité à choisir le ton, effectivement, avec le personnage de Mengele joué par Hemsworth, excusez-moi pour la prononciation,
Hemsworth.
Tu te serais attendu à ce qu'il y ait effectivement un vague commentaire en fait qui mène. C'est une des possibilités qu'a le film, hein, de ces idéalistes de la Silicon Valley qui projettent un avenir radieux pour l'humanité, s'autorisent toutes les horreurs, qu'il s'agisse de l'intelligence artificielle, de la robotique et du transhumanisme tel qu'on pratique aujourd'hui là-bas, quoi. Mais encore une fois, c'est totalement évacué. Enfin, je veux dire, c'est laissé au libre arbitre pour le coup du spectateur de se dire ah peut-être que ce mec qui pense ceci cela, on lui a créé un vague traumatisme à la noix comme quoi il a été abandonné par son père et c'est censé expliquer tout le personnage.
Et puis c'est un vrai miscast aussi, hein. C'est un problème ce truc.
Effectivement,
hein, au milieu du film,
le
quoi.
Comédien se dit là je tiens enfin l'occasion de sortir un petit peu des rôles de gosbo qu'on me fait jouer.
Je trouve j'ai saisi le côté de on va le prendre à contre-pied, on le présente comme un mec super beau, musclé, baraque, un peu le genre idéal, et puis on découvre petit à petit en fait que c'est un personnage horrible, mais ça marche pas, enfin il est pas à aucun moment il nous fait trembler.
Moi je l'aime bien Chris Hemsworth, c'est-à-dire que je l'aime bien pour ce qu'il est en fait, j'aime bien mais après il faut
parce que t'aimes bien le remake de Ghostbusters, c'est tout.
Non, en plus c'est un problème son perso, moi je trouve, dans le film, parce que je trouve ça révèle un peu pour le coup certains aspects, ce que moi j'estime misogyne en fait, dans le film, quoi. Mais ça, on ne fait pas un podcast sur Ghostbusters, mais le truc en fait, c'est que. Non, ce que je voulais dire avec Hemsworth, c'est que c'est un mec qui fait 1m95, Je veux dire, tu peux pas le louper. C'est pour ça qu'il est charismatique, ce mec. C'est parce qu'en fait, tu peux pas le louper. Il est grand, il est super bien foutu. Tu te dis, mais enfin voilà, c'est un Brad Pitt plus, quoi. Et moi, je trouve qu'il a plutôt un talent de star, c'est-à-dire d'acteur. C'est pas Laurence Olivier, le mec, hein. Mais voilà, il se pose là, il est jamais vraiment faux. Tout va bien, quoi. Là, c'est un problème de miscast, parce que même, je me rappelle que ça avait été un gros sujet à l'époque parce que les films se montent un peu comme ça aussi, c'est-à-dire qu'ils se montent grâce à quelqu'un qui a été dans des franchises et tout ça, etc., etc. Ces gens-là se permettent, bah, tu vois, comme on voit maintenant, comment il s'appelle, l'acteur qui joue Kylo Ren, j'ai un trou là d'un seul coup. Dans...
Adam Driver,
merci Alain. Il a un micro que pour nous souffler les noms sur lesquels on se plante, quoi. Adam Driver, quand il va tourner, il monte les films de Ridley Scott parce qu'en fait, en gros, il a fait Star Wars. Et voilà, c'est la même logique avec il y a quelques années avec Chris Hemsworth. Il se retrouve dans un film de Michael Mann, comme Black Hat, où il est censé jouer à un hacker et les gens disent, les hackers, ils sont pas comme ça, tu vois. Bon, d'accord, certes, mais la distinction, c'est vrai, hein, ils ont pas tort, mais la distinction, c'est que Hacker est un film d'action. C'est-à-dire que donc au moins en fait quand on passe à l'action, c'est sûr que ça marche un peu mieux avec Chris Hemsworth qu'avec un gros bedonnant en fait à la South Park en fait qui serait le hacker type dans leur tête en fait. Donc le truc c'est que là, c'est pas un film d'action. C'est un film qui se passe globalement, ça coûte 100 millions de dollars, mais c'est, globalement ça se passe dans trois pièces, quoi.
C'était coincé entre quatre murs gris pendant deux heures.
D'émotion, hein, c'est la base.
Oui, c'est comme ça que c'est vendu. Ouais.
Voilà, et en tout cas intellectuel, thought provoking comme disent les Américains. Enfin, bref, tout le tralala, quoi. Sauf que bon, non, évidemment. Enfin, sauf peut-être, peut-être que si, ça marchera sur certains de nos auditeurs. Mais en tout cas, pour nous, ça ne marche pas. Mais surtout, en l'occurrence, le problème, c'est que le gars, c'est un miscast parce que en gros, ce qu'il est censé être capable de jouer, même la comédie, hein, parce que moi j'aime pas tort ce qu'ils en font de son personnage, mais bon, apparemment ça fonctionne sur plein de gens. Ben en fait, ça marche pas, il y a rien qui marche. Alors je pense qu'il peut pas tout faire tout seul dans son coin non plus, hein,
encore une fois, parce qu'il y a pas de choix, il y a pas de point de vue. Un personnage comme celui qui l'interprète n'aurait eu de sens que si on avait été hyperbolique, c'est-à-dire vraiment à fond la caisse. Je crois qu'il y a un critique américain qui disait on aurait dû prendre Peter Sellers pour faire ce rôle-là. En pensant, j'imagine, le docteur Follamour au savant fou. Bon, parce que effectivement, c'est un personnage qui est too much, quoi. C'est le big méchant du film. Il torture des gens à longueur de journée, tout en se faisant passer pour leurs potes à la machine à café, en essayant de voilà. Il y a une scène qui aurait dû être une scène hyper tendue où il fait semblant de sympathiser avec une nana, alors qu'en réalité, il est en train de la détruire intérieurement parce qu'il sait quel crime elle a commis avant d'être incarcérée, et il en joue en fait. Mais comme toi, tu sais pas quel est le crime de la meuf, tu vois le mec jouer le bon copain qui vient lui faire une petite blague, quoi. Et du coup, la scène est vide d'émotion parce que t'as pas les éléments de la meuf, mais surtout t'as pas les éléments de jeu qui te feraient comprendre qu'il y a un enjeu terrible dans cette séquence-là. Ouais. Ce type est fou, dangereux, inhumain. Bon, et pareil, toutes les séquences où il est tout seul, et on est censé comprendre à quel point c'est un personnage justement pathétique et traumatisé.
Et beaucoup plus sombre que
voilà. Et là, ça marche absolument pas. Mais pas encore, à aucun moment le film n'enjambe quelque chose et décide d'aller à fond dans une direction. Et ça, pour le coup, c'est vraiment parce que il se contente de suivre un scénario qui a déjà été pensé en termes de film. Parce que, à ce que j'ai compris, j'ai pas lu la nouvelle qui est à l'origine, mais à ce que j'ai compris, il y a quand même pas mal de changements, notamment sur la troisième partie, qui est pas du tout ce qu'il y avait. On imagine bien que dans la nouvelle, ça se termine pas par une scène d'action avec de la baston et de la comédie,
voire un happy end, en fait, tout bêtement. On va pas forcément, il y a pas énormément de trucs à spoiler en vrai.
J'ai compris, les personnages avaient comment dire plus de culpabilité qu'ils n'ont dans le film. Le héros qui a perdu sa meuf en réalité avait aussi assassiné son pote, donc je sais pas ce qu'il en est pour la nana dont on apprend finalement qu'elle a perdu son enfant.
Parce que c'est ça en fait, c'est-à-dire en fait c'est des gens qui par défaut, alors pas juste par inadvertance presque en fait, ont pas fait exprès,
c'est ça,
de tuer les gens en fait, si tu veux. Donc ils portent la culpabilité, je peux le comprendre,
bien sûr, mais du coup ça n'en fait pas les damnés dont tu aurais besoin sur un récit comme ça. Moi, quand la nana finit par annoncer j'ai tué mon enfant, je pensais qu'elle l'avait tué, qu'elle l'avait foutu à la poubelle, tu vois, enfin
non, elle, un, elle, l'a oublié sur
un vrai
sur
crime. Le, non, elle a fait une parking. Connerie. Elle a zappé un truc. Tu vois, c'est ouais, là, tu fais.
C'est plus qu'une connerie, mais.
Non, mais je veux dire. Mais effectivement, qu'elle soit traumatisée, c'est compréhensible.
Elle n'a pas assassiné avec la volonté de.
Voilà.
C'est involontaire.
Et là aussi, c'est
et elle en souffre.
On peut parler pour le coup de manque de courage du film, de pas aller au bout, de pas te dire. Ça fait une heure que vous êtes en train d'essayer de vous attacher à ces personnages, et maintenant on vous balance qu'ils ont vraiment fait des trucs atroces auparavant, et qu'il y a une vraie raison pour laquelle ils sont dans cette situation, et pour laquelle ils se sentent damnés, et ils pensent que personne ne pourra jamais les aimer pour voilà, parce qu'ils se détestent eux-mêmes. Bon.
Et à plus forte raison sur une plateforme comme Netflix, c'est-à-dire où en gros, justement, puisque en fait ils en sont à pas faire la publicité du film, ils en sont à pas traiter le truc. Ils pourraient tout aussi bien sortir quelque chose en fait d'un peu subversif,
ouais.
Et ils le font pas. C'est à l'époque, j'invite les gens à écouter éventuellement le podcast parce qu'on en parlait avec Fabrice Duvels. Fabrice Duvels, quand il avait fait Message from the King, qui chez nous est sorti en salle mais a été diffusé sur Netflix pour le reste du monde entier, en gros, il nous expliquait, et je pense que ça s'est malheureusement pas, avéré, quoi, il nous expliquait qu'au moins l'existence de quelque chose comme Netflix permettait, en fait, de redistribuer les codes moraux, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de questionnement autour de ça, puisqu'on pouvait se permettre, puisque c'était juste un abonnement, c'était déjà préacheté, en fait, on pouvait se permettre de proposer des choses que les studios, sur lesquels les studios ne pouvaient pas prendre de risques, en fait. Et en l'occurrence, bah, si, ils prennent autant... Enfin, je veux dire, ils prennent autant, aussi peu de risques, finalement, à la fin, tout en plus, en banquant sans patate, dans un film qu'ils ne vendent pas, quoi.
Ouais, c'est particulièrement inoffensif. Et comme on a un réalisateur qui ne fait que suivre le script, il ne le précède jamais, et du coup, tout passe, ça, c'est le pire de tout, hein, par le dialogue. Ça veut dire que tout ce qui concerne la construction des personnages se construit par ce qu'ils disent. Et là, on est carrément dans de l'anti-cinéma à ce niveau-là. Je veux dire que la meuf aille dire littéralement au mec « Tu ne te pardonnes pas, mais tu es un mec bien, mais en fait, montre-moi une image forte qui me permettrait de comprendre ça. » Il n'y en a aucune. Il y a un moment qui était censé, j'imagine, sur le papier, être écrit pour constituer une scène de cinéma, qui est la séquence où ils mettent une dose qui déconne à la nana, j'ai plus le nom du personnage, la blonde, et elle commence à flipper à ce moment-là. Donc Ever commence à flipper et finit par se suicider. C'est censé être une scène de cinéma, ça, tu vois, ils sont en train d'assister au truc, ils comprennent pas ce qui se passe. Toi, tu sais ce qu'elle s'apprête à faire, et tu vois arriver le truc, t'attends la... l'effusion de sang inévitable. Bon. Et à un moment donné, quand le personnage d'Emsworth revient dans la pièce après avoir assisté à ce meurtre atroce, il en est responsable, hein, et il laisse une trace de sang sur le t-shirt du héros. En essayant de le rassurer, il lui pose la main sur l'épaule, mais évidemment sa main étant ensanglantée, il laisse une trace de sang. C'est scolaire, c'est du niveau zéro de la construction de mise en scénique cinématographique, mais moi j'étais là en train de me dire, j'en ai besoin 15 fois à la seconde, des idées comme ça, parce que là, ce plan de la main ensanglantée qui cherche à rassurer le mec, c'est un plan de cinéma, ça te fait comprendre que ce type est le coupable, le vrai coupable, et qu'il est en train de transmettre son péché au héros qui a rien fait, quoi, tu vois. Je peux accepter que ce soit d'un niveau très amateur, mais parce que justement ça fait l'effort d'aller au-delà du langage bêta, quoi, et notamment des dialogues.
Après, je pense aussi que en fait, sur un film comme ça qui est censé vraiment en fait pousser les potards, hein, pour le coup, parce que encore une fois ça fait partie du sujet, c'est on voit des mecs qui dégueulent, des mecs qui sont qu'on force à bouffer en fait, si tu veux, pour qu'ils dégueulent derrière juste pour voir ce que ça va donner, tout en fait il y a rien qui ira au-delà du beau plan léché, c'est-à-dire que si ça perturbe son beau plan léché, il le fera pas, et donc du coup t'es en train d'en regarder le truc et du coup c'est presque un film de ouais, des stats mal placés, en fait. C'est-à-dire que vraiment, en fait, c'est quelqu'un qui a un total recul sur son sujet, qui est, il le prend jamais à bras le corps, et ce qui fait qu'en fait voilà, c'est beau durer qu'une heure cinquante, c'est en fait tu l'aurais, t'as envie de le regarder en 15 fois tellement tellement c'est cousu de fil blanc, et surtout t'es pas impliqué émotionnellement une seule seconde, quoi.
Oui, mais c'est vrai que c'est quand même terrible. C'est un film dont le sujet central c'est les émotions et la manipulation des émotions, et toutes sortes d'émotions en plus. C'est vraiment, c'est les drogues qui testent, les médicaments qui testent vont provoquer des émotions chez les personnes qui en consomment, et que ça soit des émotions très positives, on va tout trouver beau, on va tomber amoureux de la moindre personne qu'on a en face de soi, ou alors on va ressentir une terreur indescriptible, les choses les plus horribles, les ressentis les plus
insignifiants comme une agrafeuse, vivre c'est des ça. Traumatismes
et ressentir de la terreur, et toutes ces émotions là elles sont pas transmises au spectateur à aucun moment.
Non, et puis en plus le moment où il essaye de le faire, c'est-à-dire quand il y a un point de vue, on va dire direct, c'est-à-dire de ce qu'on voit, c'est encore une fois un plan un petit peu léché qui va pas dépasser le cadre de ce que c'est, et surtout en fait qui à un moment donné, je sais pas si c'est moi qui fais de l'extrapolation cinématographique, mais en fait ils reviennent sur le flashback à un moment donné et t'as un même plan alors que c'est pas du tout un plan de point de vue avec une aberration chromatique, et je me suis dit mais il fait la même chose que quand il en fait c'est un effet de style, c'est tout, il s'en fout, c'est pas du tout, c'est en fait il défait même le point de vue qu'il avait avant, donc c'est super bizarre en fait parce qu'il utilise ça, il utilise un peu ce genre de truc, quoi. C'est pas tout à fait une aberration chromatique mais c'est un truc un peu similaire, quoi, je dis ça pour aller vite, mais en fait c'est ça, c'est à dire c'est le mec en fait j'ai fait de la belle image, donc j'écris bien, regarde, c'est propre,
et comme le film est donc est un fichu de t'impliquer émotionnellement du fait de tout ce qu'on a évoqué, en tant que spectateur t'as plus trop le choix que de te réfugier dans l'intellectualisme, justement. C'est-à-dire de dire, bon, je laisse tomber, apparemment, je vais pas pleurer, je vais pas avoir peur. Bon, peut-être que je peux éventuellement réfléchir à ce qu'on est en train de me raconter. Qu'est-ce qu'on me raconte de la manipulation des masses par les émotions et ce genre de choses-là. Donc, à un moment donné, moi, j'étais dans ce mood quel rapport il y a entre l'émotion et la manipulation des individus. C'était avant que... qu'on ne découvre le poteau rose, puisque donc on peut spoiler en fait tout ça, le vrai plot twist c'est qu'en fait ils ont tous été injectés par un autre produit qui les fait obéir, en fait, et c'est pour ça que depuis le début ils donnent leur consentement à chaque fois ils doivent donner leur consentement avant qu'on leur injecte quelque chose, ce à quoi ils n'ont pas consenti c'était précisément ce consentement, c'est-à-dire à en faire des créatures obéissantes, qui aurait pu être un sujet. Le mec aurait pu choisir de faire un film pas du tout émotionnel.
Ah, mais c'est totalement un sujet.
Hein. Et il y a un truc où je me dis, putain, mais ils sont tellement à la ramasse qu'ils n'ont même pas vu, je pense que je leur donne le bénéfice du doute, hein, j'espère. Il y a l'actrice qui joue la nana dont on parlait tout à l'heure, j'ai plus le personnage. L'héroïne, en fait, la meuf du héros, quoi. Elle est interprétée par Journey Smollett, qui est la sœur de Jussie Smollett, qui est un comédien qui a fait la une il y a 2 ans pour avoir mis en scène son propre lynchage, en fait. Il avait payé des Africains pour lui casser la gueule, et quand les flics ont débarqué, et il leur a fait croire qu'il s'était fait bastonner par des électeurs de Trump, et il avait une corde autour du cou. Bon. Et tout ça, c'était une pure mise en scène. Pourquoi il l'a fait, on le saura peut-être un jour, mais en tout cas, il y a eu un procès, il a fait un peu de prison et tout ça. Et vers la fin du film, cette nana-là, on lui injecte un produit, et elle prend une ceinture pour tenter de se lyncher, de s'auto-lyncher elle-même. Et là, j'étais en train de me dire, non mais c'est pas possible, ils ont fait le film alors que Jussie Smollett était dans l'actualité, si tu veux, son frère était dans cette actualité-là. Ils ont forcément fait le lien, c'est pas possible, quoi. Donc qu'est-ce qu'ils essaient de me raconter? Et je pense que non, je pense qu'ils l'ont pas fait le lien, je pense qu'ils savent même pas ce qu'ils racontent, quoi. J'espère pour eux, parce que sinon c'est complètement tordu.
Peut-être tourné avant, ou j'en sais rien, parce qu'avec tous les trucs de Covid, on sait plus.
Smollett, ça date, hein, c'était 2019, dans ces heures, je crois. Bref, mais c'est... c'est un exemple supplémentaire du manque de sérieux de l'entreprise, quoi. Le film est produit par Eric Newman, qui était le gars qui avait déjà produit pour Netflix Bright. Je ne sais pas si vous vous en souvenez de ce film.
Will Smith.
avec Will Smith dans un univers où les créatures de contes de fées comment dire, son voilà, et qui était aussi un film qui avait un énorme problème de point de vue, c'est-à-dire que tu savais pas
non, mais sur ça, quel c'est, pied danser en regardant. C'est vraiment tributaire aussi du réalisateur qui est quand même un putain de manchot là. David Ayer, c'est vraiment un gros nul, hein. C'est le roi des nulâtres.
On peut impliquer le réalisateur, on peut aussi impliquer
moi, je le fais.
Celui qui aux États-Unis est censé être le chef de projet. Voilà, parce que t'as quand même deux films produits pour la même plateforme qui se distinguent tous les deux par un sujet qui, a priori, est intriguant et qui ne fonctionne absolument pas parce qu'à aucun moment, tu fais un choix.
Ah ouais, mais Raph, c'est l'histoire du cinéma de ces 10 dernières années, ça. Excuse-moi, mais tu vois, enfin, je suis désolé, mais des films, en fait, où potentiellement, ça pourrait donner des bons films, des films, en fait, avec du potentiel, en fait, de plusieurs trucs et que les mecs, en fait, ils font juste une espèce de verre d'eau, là, tu vois, que tu bois, en fait, qui est sans goût, sans rien, tu vois, à température ambiante. Bon, bah oui, ça, il y en a des tonnes, des films comme ça. Puis sur Netflix, ça manque pas, hein, donc, non, moi je pense c'est pas je pense que ça va avec l'air du temps en fait ces trucs là et surtout ça va encore une fois moi pour le coup vraiment je veux pas faire mon troll hein, sur Top Gun Maverick mais ça posait ces questions pour moi en fait c'est à dire que je me disais juste mais pourquoi en fait pourquoi tout le monde tripe sur vraiment c'était pas pour emmerder le monde hein. C'est vraiment je comprends pas pourquoi les gens tripent sur ce film à ce point là hein. C'est-à-dire que les films que les gens aiment bien. Et là, en fait, si tu veux, bon, celui-là, je pense qu'il n'y a personne qui va triper dessus, puisque personne ne va le regarder. Mais en l'occurrence, c'est, pour moi, c'est... Alors, évidemment, je préfère Top Gun Maverick. Je ne vais pas dire l'inverse. Mais en fait, j'ai peut-être été un peu plus diverti, certes. Mais comment dire.
Un mea culpa tardif.
Non, c'est pas un mea culpa, parce que je ne veux pas que les gens croient que je troll, en fait, pour troller, justement. Tu vois, parce que j'ai bien vu que tout le monde kiffe le film et tout, quoi, et que je suis bien tout seul dans mon coin. Mais c'est pas grave, j'ai l'habitude, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est, en fait, pour moi, fondamentalement, en termes d'approche, il n'y a pas une énorme distinction. Il y a peut-être sur certains éléments effectivement des différences. Il y a plus de plaisir à voir Tom Cruise dans ce rôle-là, peut-être tout patati patata. Enfin, il y a plein de raisons en fait annexes si tu veux. Mais sur les raisons purement cinématographiques, pour moi, les deux films découlent de la même eau. Et encore une fois, c'est pas pour faire mon troll sur Top Gun Maverick. C'est juste en fait que je pense, je dirais ça, de Tron l'héritage, où il a pour lui d'avoir une superbe BO de Daft Punk, tu vois. Et pas que de Daft Punk d'ailleurs. Il y a un autre, il y a, je
non,
crois.
Non mais Daft Punk, c'est
oui,
bon.
Oui, mais je crois qu'il y a, un compositeur qui les a aidés aussi derrière. Voilà, toi tu dois savoir qui c'est, non? Mais tu veux pas le dire.
Non, je m'en souviens plus.
Bah, si, mais en fait, c'est un mec on trouvera le nom. Mais il me semble qu'il y avait ça. Et en fait, si tu veux, ces films-là, ils avaient ça pour eux, un design, un truc. Là, il y a rien dans comment ça s'appelle quand t'y a rien dedans quand t'as pas Tom Cruise quand t'as pas tout ça il y a rien dans ce film bon voilà Spider-Head il y a rien voilà. Pourquoi ça s'appelle Spider-Head parce que
c'est la nouvelle parce que la prison dans laquelle ils se trouvent c'est la toile d'araignée qui les
dans leur tête
voilà ils sont à la fois prisonniers physiquement et ils sont prisonniers émotionnellement
toi t'es allé loin dans l'analyse.
Non, mais même pour le coup, la mise en scène architecturale, elle a cette vocation à justement tout le temps t'a ramené sur des figures où ils sont toujours enfermés dans ce décor. Quand elle filme par-dessus, alors c'est tout moche, hein, mais je sais que les photographes et les architectes délirent sur ces bunkers dégueulasses avec de l'eau croupie. Mais il y a cette idée effectivement d'enfermement qui est systématique. Mais encore une fois, visuellement, c'est là parce que il sait filmer de cette façon-là, il sait filmer l'architecture, mais il se préoccupe pas de savoir qu'est-ce que ça raconte. Ok, tu m'as démontré que c'était une toile d'araignée, merci. J'ai vu d'autres films, hein, j'ai vu des films qui traitaient exactement du même sujet et qui s'appelaient littéralement la toile d'araignée, donc c'est bon. Qu'est-ce que tu m'amènes de plus, quoi? Vers où on va? On va nulle part, je sais pas où on va. On va vers un climax à la con où les personnages principaux tentent de s'enfuir de cette prison et se fritent la gueule avec les autres inmates, les autres prisonniers, et ça devient une comédie pendant que le bad guy délire dans son hydravion et que tout lui est injecté en même temps et que du coup il rigole et il pleure en même temps.
On va arrêter là, c'est l'impression qu'on a déjà fait un podcast.
Oui.
C'est la moitié de la durée du film.
On va dire que la sentence est tombée, vous êtes libéré de ce podcast.
Ah, c'est clair, hein. Merci Clémence parce qu'elle arrêtait pas d'appuyer sur le bouton pour nous dire alors est-ce que vous détestez et nous on en rajoute. Alors qu'en fait, en vrai, on s'en fout, c'est un film, tu le regardes, je veux dire, franchement, on n'aurait pas enregistré. La semaine prochaine, on l'aurait oublié, quoi. En fait, c'est ça le problème aussi, quoi.
Et ben, au moins, on en aura un petit souvenir enregistré. Ouais. Si vous voulez vous faire votre propre avis, Spider-Head est dispo sur Netflix depuis ce vendredi 17 juin. Et puis, si vous préférez lire l'original, hein, le récit qui s'appelle L'évadé de la Spider-Head.
Tu vois, c'est lui qui a trouvé le nom.
L'évadé de la Spider-Head de George Saunders est tiré d'un recueil qui s'appelle 10 décembre et qui est dispo dans les meilleures librairies. C'est la fin de cette émission, ça veut dire que c'est le moment du répondeur. Vous avez vu Spider-Head, vous avez un avis sur le sujet, ça vous a provoqué plein d'émotions et vous voulez nous en parler, dites-le nous, on a hâte de vous entendre. Pour ça, c'est très simple, enregistrez un message vocal et envoyez-le sur notre mail saletempsporlerepondeur@gmail.com, on le passera dans la prochaine émission. La semaine dernière, on vous parlait de Jurassic Park, le monde d'après, dernier volet de la saga aux dinos. Alors vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? On écoute ça tout de suite.
Salutations à toute l'équipe de Capture Mag. Alors, aujourd'hui, Jurassic World Dominion. Le truc là qui me pose et que vous n'avez pas soulevé dans ce film, c'est que on a un Jurassic Park, un film Jurassic Park qui réussit l'exploit ultime de rendre les dinosaures secondaires. Et là, je vais spoiler, voilà, parce que on a une menace qui prend la forme de sauterelles géantes mutantes dégueulasses. Voilà, et c'est un choix de merde parce que finalement, ça rend la menace même des dinosaures complètement caduque. Donc, moi, ce film-là, je suis ressorti de la salle en me disant que c'était une escroquerie parce qu'on nous a vendu un tout autre film.
Et t'as vu les dinos, et t'as vu la surenchère, et t'as vu le clin d'œil, et t'as vu qu'on t'a remis tout, et t'as vu c'est génial. en fait, non, dans ce « et t'as vu », il y a un déni du cinéma, un déni de l'héritage de Spielberg, un déni de la nostalgie. Trois choses à sauver. La petite séquence Jurassic Bourne à Malte avec Chris Pratt là sur sa moto qui poursuivit. Faudrait peut-être penser à un crossover Jurassic World de Jason Bourne. C'est sympa, ça. Franchement, c'était con. C'était bien con, mais c'est sympa. Quelques plans sur les dinos et Jeff Goldblum qui est par un peu de petits dialogues, un peu de petites vannes. Franchement, ça le faisait.
Salut l'équipe, déjà bravo à vous d'avoir fait une émission quasi de 1 heure pour parler de cet étron de Jurassic World Dominion. Franchement, 50 minutes le film n'en vaut même pas la peine. Moi pour ma part, j'ai eu l'impression que c'était un énorme étron, et pourtant la promesse n'est clairement pas tenue. Fallen Kingdom est sympathique, moi j'aime beaucoup, mais après, le film il n'y a vraiment rien qui va. Autant regarder le premier Jurassic Park, autant rester sur le Jurassic Park et le monde perdu à la limite, et voilà.
Ça tombe pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Rafik, Stéphane, merci.
Merci Clémence.
Et puis merci Alain à la technique.
Merci.
Et puis merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Si vous voulez nous encourager et qu'on continue à proposer des émissions de qualité, n'attendez plus, rendez-vous sur patreon.com ou sur tipeee.com, mot-clé Capture Mag. C'est grâce à vous qu'on continuera à grandir et qu'on restera indépendant. Et puis pour nous soutenir, vous pouvez aussi nous aider à nous faire connaître, parler de nous à vos amis, relayer nos émissions sur les réseaux sociaux et mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast, on compte sur vous. Allez, je vous laisse, on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode de Sale Temps pour un film. Salut!
Never sleep hot again with Bowl and Branch's best-selling naturally cooling sheets. They feel super crisp and cool to the touch and are expertly designed for enhanced breathability so you don't overheat at night. Start getting your best night's sleep this summer with cooling sheets made with the highest quality materials. Try Bowl and Branch with a 30-night worry-free guarantee. Plus, get 15% off and free shipping on your first set of sheets at bowlandbranch.com with code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.